Passons à la Mishnahé. Alors, cette Mishnahé, elle fait la suite des Mishnahs précédentes où on est en train de décrire la procédure de la Sota, à savoir une femme qui est soupçonnée d'adultère et dont le mari a déjà mis en garde, elle s'est isolée malgré tout. Alors, on l'a amenée devant le tribunal, on l'a prévenue, on a essayé de la menacer pour qu'elle avoue. Alors, la Mishnah nous dit si avec ces menaces, Yamrat Me'ani, si maintenant elle avoue qu'elle est impure, Shoveret Ktubata Veyotzet. Elle Shoveret Ktubata et elle sort. C'est quoi Shoveret Ktubata? C'est qu'elle écrira un reçu comme quoi elle a reçu sa Ktuba, comme si elle avait reçu sa Ktuba, et elle Yotzet, c'est-à-dire elle quitte son mari. Son mari devra lui donner un acte de divorce. Alors, si une femme avoue, avant qu'on l'ait fait boire, qu'effectivement elle était impure, donc on n'a pas eu besoin de vérifier si elle a bu ou, si elle a la fauté ou pas, elle l'avoue. Alors il y a une loi que toute personne qui se marie avec une femme, il lui écrit une ktouba. Il écrit une ktouba dans laquelle il s'engage que s'il la divorce, il lui donnera une certaine somme d'argent. En général, le minimum c'est 212 pour une fille vierge. Et cette ktouba, il y avait des endroits où on l'écrivait, des endroits où on ne l'écrivait pas. Alors on parle ici dans cette mission dans un endroit où on ne l'écrivait pas. Et donc dans ce cas-là, cette femme-là, quand il va lui donner son acte de divorce à cette femme-là, elle peut demain venir devant le tribunal lui dire « Voilà, mon mari ne m'a pas donné ma ktouba, je le réclame. » Alors pour éviter ce problème-là, on a obligé cette femme à écrire un reçu dans lequel elle a avoué qu'elle a trompé son mari et que ne lui revient pas de ktouba. Et en écrivant ainsi, alors elle ne pourra plus voilà, comme il dit le rabbin, Zaniti va'avati ktubati, j'ai trompé mon mari et j'ai perdu mon droit de ktuba. C'est pourquoi, avec ce reçu dans les mains, qui est dans les mains du mari, la femme ne pourra plus jamais réclamer sa ktuba. Et les mefarshim me disent, mais dans un cas où elle avait sa ktuba écrite, où on écrivait la ktuba, il suffisait tout simplement qu'elle la transmette à son mari et qu'il la déchire. Et dans ce cas-là, c'est fini, le problème il n'est pas besoin d'écrire un reçu. En tous les cas, on voit qu'elle perd sa ktouba parce que cette femme-là, son droit de recevoir sa ktouba, c'est seulement quand elle vit, son mari la divorce pour toutes sortes de raisons, mais en tout cas pas un problème pareil où on la soupçonne de tromperie et elle l'avoue. Elle l'avoue ici, dans ce cas-là, comme on voit ici. Yotzet est obligé de quitter son mari, le Bedin ne lui permet pas de vivre avec cette femme parce qu'il n'a pas le droit d'avoir de relation avec cette femme, donc il est obligé de la divorcer. Maintenant, la Mishnah continue en disant, Vi ma bra teorani, et si quand même malgré tout elle dit je suis pure, alors là on commence la procédure. Maali mota le char amizrar, shal petar, char anikanor, shesham bashkim et asotot, ou metarim et ayoldot, ou metarim et ametzoraim. On la faisait monter dans la porte est du temple, et devant l'entrée de la porte Nicanor. Et dans cet endroit-là, on faisait à la fois, on faisait boire les sotot, donc c'est le sujet qui est traité dans cette Mesechet, et aussi on purifiait les femmes qui avaient accouché, et on purifiait aussi les lépreux. Bon. On sait que elle est venue devant le grand tribunal. Le grand tribunal siégeait au Beth Amikdash. Il se trouvait à grande proximité de l'endroit de Shara Nicanor. Et donc, la Mishnah nous dit malgré tout. Malgré tout, on la faisait redescendre toute l'entrée du temple. Et on la faisait remonter toutes ces marches et toute cette marche qu'on lui faisait cette montée. Pourquoi? Pour la fatiguer. Peut-être qu'en la fatiguant, elle va avouer. On tape sur son système nerveux. Peut-être qu'elle va avouer qu'elle l'a fauté. Alors, c'est ce qui a marqué la Mishnah. En tous les cas, on l'a placée devant l'est, qu'on a dit, dans la porte est, devant le pétard Shara Nicanor. Le Shara Nicanor, c'est l'endroit qui séparait la cour des femmes, ce qu'on appelle Shar Nashim, et la Shar à Israël, et la cour intérieure. Alors cette femme, a priori, elle est pure, donc on aurait pu la faire entrer à l'intérieur, mais comme on voit dans la Mishnah, On l'a déshabillée partiellement en tout cas. Et donc c'était par Raoui qu'on la fasse rentrer plus intérieurement. Donc elle se trouvait là-bas. Et c'est là-bas qu'on va la faire boire, comme on va développer dans le Sudha Mishnah. Et aussi une femme qui a accouché. Alors, au bout d'une semaine, si elle a un garçon, au bout de 2 semaines, si elle a une fille, elle sautera en premier vu qu'elle est permise à son mari. Mais malgré tout, ça c'est mis la Torah, hein. Malgré tout, jusqu'au 40e jour pour un garçon et pour 80 jours pour si c'est une fille, elle s'appelle encore impure dans le sens qu'elle ne peut pas rentrer au temple. Et alors après cette période-là, elle apporte son sacrifice et on va, comme il doit se trouver près de son sacrifice, alors on lui permet d'aller dans cet endroit-là, dans Nashim, juste devant le Shaar Nicanor, et là on offrait son sacrifice qui lui permet d'être entièrement pur. De même, à Metsora, à l'épreuve, à la fin de sa procédure, il devait apporter ses sacrifices. Et là aussi, comme il était impur, jusqu'à qu'on finisse tout sa procédure, alors il ne pouvait pas rentrer plus intérieurement. En tous les cas, on plaçait la sota là-bas. Et pourquoi on appelle ce Shaar Nicanor, cette porte-là, le Shaar Nicanor, c'est le nom d'un personnage qui s'appelle Nicanor, qui a offert les portes de cet endroit-là. D'Alexandrie en Égypte. Il a payé une fortune pour cela. Et il a eu un miracle, comme ça rapporté en Maseret Yoma, quand il les a apportés en bateau. En tous les cas, le nom est resté à jamais. Et la Mishnah continue en apportant encore des détails. Ve Kohen Ochez Bigdea. Et le Kohen, il va tenir par ses vêtements au niveau du col, comme le Rav Barthénot relève. Et là, il va la dénuder, ni créou. Quand il l'ouvre en le tenant par le col, par le col, alors il tire sur les vêtements. S'il se déchire, eh ben tant pis, il se déchire. Ni frémo. S'il se déchire. Alors, krav et frima, les deux veulent dire déchirer, comme l'explique le Rav Barthénoura, mais ni créou, c'est seulement une seule déchirure, tandis que ni frémo, c'est beaucoup de déchirures. Ou bien que ni créou, c'est. Dans la longueur, tandis que Nifrima, c'est dans la largeur. En tous les cas, si ça se déchirait, ça se déchirait. Hatcho Megalet Liba, jusqu'à qu'il dévoile son cœur, sa poitrine. Donc, Vesoter et Sarah, et aussi, il va lui enlever son foulard, son chapeau qu'elle avait sur la tête, et il va dénouer sa chevelure. Et donc, c'est très, très, très honteux pour la femme, qu'on voit sa poitrine, qu'on voit son. Qu'on voit sa chevelure, qu'on voit tous ses cheveux, même qu'on lui enlève son chignon éventuellement. Sauter et Sahara, s'ils étaient attachés ses cheveux, on les détachait. Et là, ça se faisait devant tout le monde pour lui faire honte, et peut-être que grâce à ça, elle va avouer, comme explique le Meiri. En tout cas, c'est Xatakatou, c'est une décision de la Torah qui doit agir ainsi. On verra dans la Mishnah suivante qu'il la mettait pas toute nue, évidemment, c'est seulement partiellement. C'est l'iba, comme on l'a dit, c'est le cœur, la poitrine et les cheveux. Rabbi Dormer, Imaya libanae loya megaleuim, Imaya saranae loya sotro. D'après Rabbi Yehuda, si son cœur était joli, s'il avait une jolie poitrine, alors il la dévoilait pas, malgré que la Torah le demande. Imaya saranae, si sa chevelure était jolie, alors, il a détaché pas. Il détachait pas son attache. Il laissait pas ses cheveux au vent. Pourquoi? Comme explique le Rav, que d'après Rabbi Yehuda, il craint que cette femme, en fait, elle va pas mourir. Elle va rester vivante. Et il y avait des jeunes Kohanim qui regardaient le spectacle. Et que quand elle va s'en sortir, alors ils vont la désirer. Ils vont avoir des pensées. Des pensées, c'est pas bon. Alors c'est pour ça que d'après Rabbi Yehuda, dans un cas pareil, on n'appliquait pas ce que la Torah demande pour éviter ce problème-là. Tandis que Tanna Kamma, le premier avis, pense que si la Torah est décidée, alors on fait abstraction aux conséquences fâcheuses, comme on l'expliquait, et qu'on applique ça parce que c'est très important que cette femme ait honte et que peut-être grâce à ça, elle va avouer et on va éviter de lui faire boire ses eaux, d'effacer le nom de Dieu, comme on l'a expliqué dans l'émission précédente. Et ça, c'est la discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim, mais comme il est Farshim, d'après Rabbi Yehuda, les Chachamim ont la force de Beshev et Al Ta'aseh, de s'abstenir à faire une mitzvah assez dans un cas où ils y trouvent des raisons, comme ici. Mais les Chachamim, comme on l'a dit, ils ne sont pas d'accord avec la position de Rabbi Yehuda.
Une question de Halakha, besoin d'un conseil personnel, avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, kashrout, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.